Voix Nue. Toute cette semaine, Raphaël Bourgois rencontre Laurence Parisot. Ce soir, l'IFOP, se faire une opinion et la mesurer.
Bonsoir Laurence Parisot.
Bonsoir.
Hier, nous avons plongé dans votre généalogie, on a évoqué les origines familiales de votre goût pour l'entreprise. Se dégage une certaine idée, une certaine culture et même une certaine sensibilité politique, qu'on pourrait qualifier de libérale. On s'est quitté sur une rencontre importante, celle de Pierre Veil, le patron de la Sauffresse. On est à peu près au milieu des années 80, vous êtes alors l'assistante d'Alain Lancelot, le directeur du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique à Sciences Po. Qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce que vous faites exactement à la Sauffresse, Laurence Parisot? Vous êtes chargée d'études, mais c'est vrai que c'est toujours un peu mystérieux pour le profane ce qu'on y fait dans ces lieux.
Je ne rentre pas à la Sauffresse, je rentre dans une filiale de la Sauffresse qui s'appelle Louis Harris, l'Institut Louis Harris, qui était une entreprise spécialisée dans les études et les sondages, détenue à la fois par la Sauffresse et par l'Institut Louis Harris américain, fondé par Monsieur Louis Harris. Et Monsieur Louis Harris était le sondeur de John Kennedy. Et j'ai eu la chance d'avoir de multiples conversations avec Louis Harris. Alors, que fait-on dans un institut de sondage quand on est jeune chargé d'études? Eh bien, on cherche à comprendre les attitudes, les comportements, les désirs, même les désirs les plus enfouis, des consommateurs, si vous travaillez pour une entreprise, ou bien tout simplement des citoyens, des électeurs, quand vous faites des études plus sociologiques, voire politiques. Et ceci rejoint un goût que j'ai toujours eu et qu'Alain Lancelot a mis en évidence encore plus chez moi, c'est le goût de comprendre. Je suis très attachée à essayer de décortiquer ce qui fonde telle décision, ce qui fonde telle direction. Et plus que ça, à essayer de mesurer son intensité. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est pas sérieux? Est-ce que c'est durable ou pas durable? Voilà, j'aime comprendre parce qu'il me semble qu'on ne peut pas agir si, au préalable, on n'est pas certain d'avoir fait le bon diagnostic.
Vous avez parlé, Laurence Parisot, de Louis Harris, de vos nombreuses rencontres avec lui. Est-ce qu'il y a une façon différente d'aborder la question de l'opinion, la question des sondages, de l'autre côté de l'Atlantique, côté américain, de celui qu'on peut avoir ici en France, par exemple?
Dans le monde politique, oui. C'est-à-dire que depuis toujours, et notamment à l'époque de Kennedy avec Lou Harris, on disait Lou, on travaille aux États-Unis le sondage politique comme on travaille le marketing. C'est-à-dire qu'on cherche à segmenter, on cherche à cibler. On s'adresse à l'électrice américaine en faisant en sorte d'avoir un message politique purement féminin qui lui convient parfaitement. Et le sondage est du coup utilisé, le sondage politique, le sondage d'opinion est utilisé principalement dans cet objectif-là, dans les études aux États-Unis. En France, depuis quelque temps, on essaye de faire ça, mais on est quand même dans des approches beaucoup plus transversales, plus générales et plus thématiques aussi dans notre pays, et moins par catégorie qu'aux États-Unis.
C'est intéressant ce que vous dites, Laurence Parisot, parce que quand vous parlez du sondage aux États-Unis, vous parlez de son utilisation politique. C'est peut-être une méprise qui est à l'origine chez beaucoup de citoyens, de certaines méfiances vis-à-vis des sondages. On pense que les sondages, c'est comment dire, une méthode scientifique qui permet d'avoir une information à un instant T, voire une information pour le futur. Or, ce que vous nous dites, ce que vous semblez nous dire là, Laurence Parisot, c'est que le sondage, c'est aussi un outil.
Ah, sans aucun doute, c'est un outil, c'est un instrument. C'est un instrument à des visées sociologiques et très utilisé dans les sciences sociales. Mais ça peut être évidemment un instrument utilisé pour agir, utilisé pour prendre des décisions. Et nous, à l'IFOP, ou nos concurrents en France, aux États-Unis ou ailleurs, nous sommes des entreprises, nous ne sommes pas des laboratoires de recherche. Donc nous avons des clients. Quand un client vous commande une étude de marché ou un sondage d'opinion, c'est qu'il a besoin d'utiliser ce sondage ou cette étude de marché. Donc oui, c'est un outil. Alors ça n'empêche que l'outil est construit avec une méthodologie très stricte, un mode très organisé de recueil d'informations, de traitement d'informations et d'analyse statistique. L'erreur qui est souvent faite à propos du sondage est liée au fait qu'on considère que c'est comme de la mathématique. Or, ce n'est pas de la mathématique, c'est de la science sociale. Ce que fait le sondage ou l'étude de marché, c'est de tenter de s'approcher le plus possible d'une vérité. Mais on ne fait que s'approcher le plus possible. La vérité ultime, nous ne savons pas la saisir. D'autant plus qu'elle est mouvante. Les choses bougent sans cesse en matière d'opinion. Et encore plus dans le monde d'aujourd'hui, où il y a une accélération, une mobilité, je pourrais dire, très grande, prodigieuse des opinions. Ça va très vite dans un sens ou dans un autre. On l'a vu au moment du Brexit, on l'a vu au moment de l'élection aux États-Unis pour Donald Trump, on l'a vu lors de la primaire en France. Et donc, c'est une méthode scientifique, une méthode qui est utilisée pour agir, mais ce n'est pas de la mathématique.
Alors vous êtes chez Louis Harris, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, Laurence Parisot? Vous dirigez directement vers justement ces sondages politiques qui ne sont pas ce qui font vivre, vous l'avez dit, les instituts de sondage sont des entreprises, ce n'est pas forcément ce qui fait le plus vivre les instituts de sondage, mais c'est un peu la vitrine, on va dire, c'est un peu, j'allais presque dire, l'aristocratie du sondage qui investit ce champ du sondage politique.
Ma culture est une culture de sociologue et de politologue, donc je me passionne plus pour les sondages politiques, en tout cas au début. Mais chez Louis Harris, je découvre aussi ce qu'est le marketing et je mesure à quel point c'est décisif pour les entreprises, pour fonder leurs choix, pour développer leurs produits, pour élaborer leur communication. Et on réalise à ce moment-là que nous sommes en amont de tout le processus industriel et de vente commerciale de toutes les grandes entreprises françaises. Une magnifique entreprise comme L'Oréal doit son succès notamment parce qu'elle fait très tôt, très en amont, des études de marché pour s'assurer que les clients ou les clientes aimeront le produit s'il est configuré d'une façon ou d'une autre façon. Donc on comprend dans ce métier-là vraiment tout ce qui est à l'origine des grands choix stratégiques des entreprises. Mais ce que je découvre peut-être le plus chez Louis Harris, c'est le management. Parce que je mesure dans cette entreprise, qui est une entreprise de taille modeste à l'époque, en France, aux États-Unis c'était déjà une grande entreprise, qu'elle n'est pas très bien gérée. Et là, ma culture familiale jaillit, déborde même, et à un moment je considère que c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, sinon l'entreprise va vers l'échec, et je vais voir l'actionnaire pour lui dire, si vous voulez, moi je peux diriger l'entreprise, parce que c'est une pétaudière et il faut remettre de l'ordre.
Vous allez voir Pierre Veil et vous lui dites, voilà moi, du haut de mes 27 ans, Laurence Parisot, je vous assure que je peux faire marcher, mieux marcher cette entreprise. Il faut quoi? Du culot, de la confiance, de l'inconscience,
Laurence Parisot? Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis une sacrée dose d'inconscience. Et en même temps, je me souviens très clairement que je voyais tout ce qui n'allait pas, et qu'il me semblait qu'on pouvait rétablir un certain nombre de normes, de principes pour garantir le bon fonctionnement de l'entreprise. l'information ne circulait pas, il n'y avait pas de réunion de travail qui permettait d'ordonner tout simplement les tâches des uns et des autres. Il n'y avait pas de stratégie, ça c'est même pas la peine d'en parler. Et j'ai vu effectivement, j'ai demandé rendez-vous à l'actionnaire qui était représenté par Pierre Veil. Et je lui ai dit, on n'aura jamais de très bons résultats dans ce Capharnaüm. Et je lui ai très clairement dit, si vous êtes d'accord, moi je peux diriger l'entreprise. Et il a été stupéfait. Et je crois qu'il a dû me donner ou me dire qu'il avait besoin d'un temps de réflexion. Et je ne saurais plus dire, mais je pense que ça a duré un à deux mois maximum. Et puis, il y a dû y avoir un autre entretien avec lui. Et finalement, il a été convaincu. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai commencé à diriger l'Institut Louis Harris à peine 27 ans. J'aurais dit 26 ans.
Et c'est aussi le début de ce qu'on pourrait appeler une sorte de marque de fabrique Laurence Parisot. On fonce d'abord et ensuite on voit comment on se débrouille avec ce qu'on a réussi à obtenir.
Ça, c'est pas faux. Et d'ailleurs, toute ma vie, j'ai dit à mes équipes commerciales qui parfois disaient, oh là là, mais si on vend ce projet, on va avoir des problèmes de production.
Et c'est pas faire.
J'ai toujours dit, on vend d'abord, on voit après.
Et ça vous a suivi ensuite, évidemment, on reparlera de l'IFOP, puis du MEDEF. Est-ce que ça révèle aussi chez vous, Laurence Parisot, voilà, vous êtes aux manettes. Est-ce que vous diriez que ça révèle un tempérament particulier de dirigeante? Qu'est-ce qui vous anime alors? L'idée de, vous l'avez dit, de fédérer, d'impulser, d'entraîner, c'est ça qui vous porte?
Alors j'adore constituer une équipe et faire en sorte que ensemble on se dépasse. Qu'ensemble, on fasse mieux demain qu'aujourd'hui. Et plus encore, si ensemble, on peut créer, on peut innover. Ça, je trouve que c'est les mêmes joies qu'une équipe dans tout sport collectif qui l'emporte. C'est des moments d'aventure collective extrêmement intéressantes. Et c'est effectivement ce qui m'anime beaucoup. Et quand, en plus, on est dans un domaine de prestations intellectuelles, qui est en contact avec la société française, alors c'est pour moi la plus grande gratification possible, parce que ce qu'on fait sert aussi au pays, puisque nous faisons des études qui aident à décrypter les désirs des consommateurs et des électeurs, eh bien tout ceci forme une espèce de logique, à la fois c'est une entreprise qui progresse et en même temps c'est une entreprise qui délivre quelque chose utile au pays. Ce que j'aurais voulu à l'époque, c'est faire en sorte que cette chance que nous avions d'être la filiale d'une société américaine, nous en saisissions l'opportunité d'une manière plus évidente. Et j'aurais voulu créer un lien plus fort entre Paris et New York. Et je suis allée voir directement, personnellement, Lou Harris à New York pour essayer de faire vraiment un pont transatlantique entre nos deux entités. Mais comme la Sofresse était également actionnaire de la filiale française, la Sofresse à l'époque n'a pas du tout apprécié ce mouvement. Et très vite, j'ai vu que je ne pouvais pas accomplir et mettre en œuvre cette stratégie. Et c'est pour ça que, au bout de quelques années, j'ai commencé à regarder ailleurs.
Regardez ailleurs, et votre regard se porte sur l'IFOP, qui est le plus ancien institut d'analyse de l'opinion en France, créé en 1938, mais à l'époque, un institut qui vivote, qui existe, mais qui n'est pas sur le devant de la scène. Et donc, vous le rachetez avec l'aide, évidemment, de votre père et, oui, et de l'argent familial, celui de l'entreprise Parisot, qui prend une participation très importante dans l'IFOP.
Tout à fait. En fait, j'ai été informée des difficultés très importantes, puisque l'entreprise IFOP était à l'époque en cessation de paiement. Je suis allée voir l'actionnaire de référence de l'IFOP, Bossard, et un peu de la même façon, parce que j'avais tout juste 30 ans, un peu de la même façon que j'avais été voir Pierre Veil pour Louis Harris, je dis au patron de Bossard, moi je peux vous aider à redresser l'IFOP, je saurais faire, simplement Je ne le fais que si je deviens actionnaire avec vous, si vous le souhaitez, mais je veux pouvoir peser, parce que c'est ce qui m'avait manqué chez Lou Harris, je veux peser sur les orientations stratégiques. Le patron de Bossard à l'époque, qui s'appelait Jean-Pierre Ozimour, a été aussi surpris que Pierre Veil pour Lou Harris. Mais finalement, en quelques semaines, après quelques réunions, il a été convaincu. Et c'est comme ça que je reprends en main l'IFOP, qui était, à l'époque, on disait vraiment la vieille dame des sondages. Donc il y avait vraiment un élan très fort et radicalement différent à donner à cette entreprise.
Je l'ai dit, vous vous lancez dans cette aventure, dans ce projet, avec l'appui de votre père, de votre famille. C'était inimaginable de le faire sans lui. Je ne parle pas ici, évidemment, de la question financière, mais plutôt de cet accompagnement. Vous avez 30 ans.
Hein, oui, alors. Oui, c'était vraiment indispensable, même si je ne le vivais pas de cette façon-là à l'époque. C'était pour moi plutôt la possibilité de rester dans une forme de capitalisme familial. Donc la famille Parisot est toujours dans le coup, tout en étant dans un domaine qui était le mien et qui n'était pas du tout le leur, et sur des sujets que je commençais à bien maîtriser grâce à mon expérience Louis Harris. Et ça me permettait d'avoir des échanges réguliers avec mon père. Quand je dis régulier, c'était quasi quotidien. Peut-être pas tout le temps, il y avait des périodes plus ou moins intenses, mais c'était vraiment quand même très fréquent que j'échange avec Michel Parisot sur tel problème de gestion, tel problème commercial. J'avais besoin de lui comme sparring partner. Aujourd'hui, on dirait un coach en management. Mais c'était d'autant plus nécessaire que je n'avais pas fait de formation spécifique sur les domaines financiers. Et donc, c'est lui qui a été professeur de corporate finance, comme on dirait aujourd'hui.
Donc vous voilà patronne à 30 ans, Laurence Parisot, 150 salariés à l'époque, c'est ça l'IFOP?
Oui.
À peu près 150 salariés. Vous le ressentez comment? Est-ce que c'est d'abord un challenge personnel, ou est-ce que déjà il y a une sorte de poids de la responsabilité de se retrouver à la tête de 150 salariés?
Une responsabilité énorme, un challenge très important, parce que l'entreprise avait des difficultés de trésorerie terribles. Et surtout, d'emblée, la nécessité de construire l'avenir avec les organisations syndicales. Il se trouve qu'à l'IFOP, les représentants du personnel étaient syndiqués et leur poids était tout à fait significatif dans la vie quotidienne de l'entreprise. Et mon premier vrai contact très constructif avec les syndicats date de ce moment-là. On est au tout début des années 90. Je ressens l'impérieuse nécessité de bien travailler avec les syndicats pour garantir le sauvetage, le redressement, puis le développement de l'IFOP. Et je m'entends merveilleusement bien avec la déléguée CGT de l'époque, la déléguée CFDT de l'époque, parce que nous avons partagé ensemble l'amour du métier, l'amour de l'entreprise.
C'est l'origine de ce fameux désaccord constructif, ou je ne sais plus quelle est l'expression exacte que vous employez.
C'est ce terme-là. C'est l'origine pratique. Je ne l'avais pas encore conceptualisé. Mais oui, nous partions de points de vue assez différents, mais nous avons fait l'effort de les rapprocher. Alors parfois, vous savez, ce n'est qu'une question de vocabulaire. Je me souviens très bien de cette toute première réunion du comité d'entreprise de l'IFOP. On est en 1990, et je dis, l'entreprise perd de l'argent, il est absolument nécessaire de rétablir une logique de profit. Et là, la dame de la CGT, si jamais elle nous écoute, je voudrais lui dire combien je suis attachée à elle et à tout ce qu'elle m'a appris, mais la dame de la CGT à l'époque me dit, Madame Parisot, peut-être, mais est-ce que vous pourriez trouver un autre mot que le mot profit? Alors, à partir de là, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses que nous pouvions faire ensemble si nous étions respectueux les uns et les autres de nos cultures, de l'angle avec lequel on observe les situations et de savoir que ce ne sont pas tout à fait les mêmes prises de vue, si on peut dire. Mais si on a ce respect-là, alors vraiment on peut aller très loin ensemble.
Et alors pour réussir à redresser l'IFOP, vous avez des méthodes, Laurence Parisot, qu'on peut dire agressif, volontaire, mais c'est nécessaire. C'est un milieu très concurrentiel, celui des sondages, et c'est aussi un milieu d'hommes, comme beaucoup de milieux économiques et beaucoup de milieux de pouvoir.
Alors, j'ai pas le sentiment d'avoir eu des méthodes agressives. J'ai surtout mis beaucoup d'énergie, beaucoup de moi-même. J'ai travaillé, c'est considérable, et j'ai essayé de former des équipes qui s'engagent. J'ai voulu surtout redonner à cette marque IFOP sa fierté qu'on trouve dans ses origines, parce que ça a été la première marque, et c'est cette marque-là qui a installé des grands principes essentiels dans notre métier. Peut-être que j'ai dû prendre des décisions difficiles. Par exemple, il ne fait aucun doute qu'il faut dans ces moments-là se séparer de certaines personnes qui ne sont pas adaptées aux exigences du moment. Ça ne veut pas dire que ces personnes dont il faut se séparer n'ont pas un talent, un savoir-faire, mais c'est pas celui dont on a besoin à l'instant T pour redresser une entreprise. Peut-être que j'ai dû prendre des décisions difficiles, mais j'ai jamais ressenti que j'étais considérée comme agressive.
Les années 90, c'est l'arrivée aussi des études qualitatives. Le métier évolue.
Oui, c'est déjà assez ancien, les études qualitatives. Et c'est une spécificité française parce que...
Peut-être pour nos auditeurs, rappeler ce que c'est, quelle est la différence entre l'approche qualitative et quantitative, même si dans le terme, évidemment, on l'entend bien ce que ça signifie.
Mais... Eh bien, l'approche qualitative n'est pas très éloignée de la vôtre. C'est-à-dire qu'on pose des questions de la manière la plus large et la plus ouverte possible et on laisse l'interviewé répondre en prenant le temps qu'il veut. Mais c'est une approche qui, effectivement, permet de sonder de manière plus profonde et qui repose beaucoup sur ce que nous a appris la psychologie et même la psychanalyse. D'ailleurs, les Français sont très forts, les instituts d'études français sont très forts sur les études qualitatives parce que il y a dans notre pays une très grande sensibilité à la psychologie et à la psychanalyse. Alors que, par exemple, dans le monde anglo-saxon, on a une approche beaucoup moins fouillée des choses qualitatives. Donc oui, ça se développe. Je suis personnellement très attachée à ce type d'études et je les encourage beaucoup. Et je dois vous dire à cette occasion que c'est parce que nous avons fait beaucoup d'études qualitatives en 2002 que j'ai été probablement la seule personne à dire publiquement, un mois avant le premier tour de l'élection présidentielle de 2002, que je pensais que la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour était une hypothèse hautement probable. Je ne voyais pas cette tendance aussi forte dans les études quantitatives. Par contre, il m'apparaissait dans certaines interviews qualitatives qu'il y avait un désir pour le Front National très grand qui pouvait amener Le Pen au deuxième tour.
Est-ce que ce travail qui doit être titanesque une fois que vous arrivez à l'IFOP, est-ce que ça vous laisse quand même un peu de temps pour vous, pour développer vos passions? Qu'est-ce que vous faites en dehors du travail à cette époque-là?
À cette époque-là, vous avez raison, le travail occupe une place considérable. Mais il y a une chose qui ne me quitte pas, c'est la découverte du monde. Et donc je voyage toujours beaucoup. Et c'est même cela qui est à l'origine d'une décision dont je suis très fière, aujourd'hui encore, qui a été de créer le premier bureau d'un institut d'études de marché et de sondage d'opinion en Chine. J'ai été en Chine d'abord comme touriste. C'était le tout début de l'ouverture de la Chine au tourisme étranger. J'ai tout de suite compris à quel point la mutation de l'économie chinoise allait être prodigieuse. Je n'aurais pas su la décrire à l'époque, mais je la sentais, je la devinais. Et donc ce voyage de découverte a provoqué chez moi le désir d'ouvrir un bureau IFOP à Shanghai, ce qui fut fait au milieu des années 90, à une époque où, il faut bien comprendre ce que ça veut dire, je me souviens, Shanghai, le milieu des années 90, il n'y a qu'un seul distributeur de billets dans toute la ville de Shanghai. Et le premier collaborateur qui est parti travailler là-bas, la première étude qu'il a vendue, c'était une étude pour Coca-Cola, parce que Coca-Cola, comme vous le savez, a comme couleur le rouge. Hein, c'est les canettes de Coca-Cola sont rouges. Et c'était un problème à l'époque parce que c'était le même rouge que le rouge du drapeau du Parti communiste. Donc comment gérer cette situation? C'était un embarras pour Coca-Cola et c'est nous qui avons fait cette étude pour modifier un peu le packaging des boîtes de Coca-Cola. Voilà, ça c'est pour vous dire que quand je ne suis pas au travail, je voyage. Mais quand je voyage, je pense au travail. Et c'est ça qui produit des aventures extraordinaires.
Donc ces passions, évidemment, vous accompagnent, mais il manque quand même quelque chose, peut-être. C'est l'action aussi, le fait de peser véritablement sur le cours des choses, Laurence Parisot, en dehors, évidemment, de l'IFOS. C'est peut-être ce qui vous amène, j'ai pu entendre dire d'ailleurs que c'est à l'occasion d'un voyage que l'idée germait en vous. C'est peut-être ce qui vous emmène vers le MEDEF, on en parle demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Bourgois avec Laurence Parisot. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Marie-Laure Ciboulet, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.